Cette semaine, à la vie en BD, les prémices du Front de libération du Québec et de la résistance et de la floraison à Hochelaga, Maisonneuve. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette édition de la vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure pour parler 9e art également. L'impression pour parler de mouvements sociaux, de mouvements citoyens. En première moitié d'émission, on ira vers l'historique, en fait, avec le Front de libération du Québec. Chris Oliveras, du côté des éditions Pau-Pau, nous offre Mourir pour la cause, qui nous amène vraiment dans les pré-débuts, dans les prémices du FLQ au fil des années 1960, donc en route vers la crise d'octobre sans nécessairement s'y rendre. Et ça nous fera prendre un pas de recul sur des éléments historiques autour du contexte social au Québec de l'époque, autour de la place des francophones, de la place des Canadiens français dans le contexte de l'époque également, d'une période où, évidemment, il y avait une prise de conscience, il y avait une prise de repossession, si on peut dire, de la part des Québécois, Québécoises, de leur territoire, de leur destinée aussi, d'une certaine façon. Alors, c'est un peu ce qu'elle explorait avec Mourir pour la cause. Et en deuxième moitié d'émission, on ira faire un tour à l'époque plus actuelle, en fait, 2020, avec un cours sur l'utopie donné au Collège Maisonneuve et avec une réflexion qui a germé de ce cours-là face à une action de résistance autour de Parc Nature, donc un espace, un terrain vague, un espace vert en bordure du quartier Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Un espace dont les citoyens s'étaient appropriés, qui avait un rôle important pour ceux-ci et celles-ci, notamment en matière d'îlots de chaleur, notamment en matière de qualité de l'air, et qui se voit visé par un grand projet de développement portuaire. Alors, comment s'organise la résistance et en même temps, quelle réflexion on amène autour de celle-ci? Alors, c'est ce qu'on explore avec le livre qui s'appelle « Résister et fleurir » de Joachim Bélanger et Jean-Félix Chénier chez Éco-Société. Alors ce sera notre entrevue en deuxième portion d'émission. On se dirige maintenant vers le livre « Mourir pour la cause », un livre qui est publié du côté des éditions Pow Pow et simultanément une sortie du côté anglophone chez Drawn and Quarterly avec le titre « Are you willing to die for the cause ?» Donc, un livre, un auteur qui est avec nous, Chris Oliveras, bonjour.
Bonjour Roland, bonjour.
Alors, le livre, en fait, pour le contexte, il nous amène dans le Québec des années 1960. On va vers les prémices, vers les premières controverses aussi, on pourrait dire, autour du Front de libération du Québec, le FLQ. C'est un sujet qui vous intéresse depuis quand même assez longtemps et qui vous a même amené, si je ne me trompe pas, à prendre un recul de votre travail d'éditeur pour vous consacrer ces dernières années vraiment à la réalisation de cet ouvrage-là et de la recherche historique qui l'entoure.
Oui, donc c'était un sujet que je me trouve toujours fascinant depuis, je dirais, depuis que j'étais une élève dans les écoles secondaires, parce que j'avais environ 15 ou 16 ans Puis c'était dans mon cours de Canadian History, dans mon école anglophone à Laval. Puis on a vu un documentaire de l'ONF sur la crise d'octobre, en fait. C'est un film sur l'UFAQ, mais grosso modo sur la crise d'octobre. Alors, depuis ce temps-là, j'étais toujours fasciné par ce sujet.
Et nécessairement, c'est un sujet qui est quand même très, très sensible, très complexe aussi, parce qu'évidemment, il y a la crise d'octobre, il y a le FLQ, il y a tout ce qui a amené à la montée du FLQ. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, j'imagine qu'il y a une ligne à tracer où on dit, ben, le récit pour la BD, on va le commencer à un endroit, mais culturellement puis historiquement, il y a des éléments de compréhension qu'il faut parfois aller chercher quand même assez loin aussi.
Oui, exactement, exactement. Au début, alors j'avais l'idée de faire ce livre il y a environ 15 ans, plus ou moins. Mais il m'a fallu environ 6 ans pour travailler sur le livre parce que finalement, depuis 2015, 2016, quand j'ai quitté Drone Quarterly, j'ai commencé à travailler sur le livre. Donc, au début, l'idée, c'était de faire un livre sur la crise d'octobre. Et dans le contexte de cette planète originale, j'allais faire un court prologue de ce qui se passait dans les années 60. Un prologue peut-être de 15, 20 pages, choses comme ça. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches sur ces événements qui se sont produits à cette époque, j'étais tellement sidéré par ce que j'apprenais parce qu'il y avait des choses tellement frappantes que j'apprenais pour la toute première fois.
Et dans ce contexte-là, parce que, évidemment, on se lance, vous habitez au Québec, j'habite au Québec, on sait les deux que c'est un sujet qui est quand même extrêmement sensible aussi pour l'époque et encore aujourd'hui d'une certaine façon. Donc, j'imagine, et quand on voit Mourir pour la cause, en fait, à la fin, je pense qu'il y a une vingtaine de pages annexes où on explique, il y a une bibliographie. J'ai l'impression, en voyant ça et en lisant le livre, qu'on se dit aussi, on se lance, on est béton côté recherche. Dans le fond, chaque élément qui est là, il est justifié, vous l'avez retracé à quelque part, il a été validé par un document de presse, par un article, par quelque chose, dans le fond.
Oui, exactement. Donc j'ai fait beaucoup de recherches à propos du sujet. Donc il y a plusieurs livres aussi. J'ai consulté plusieurs journaux. Donc on peut dire les quatre principaux journaux de l'époque, la presse, Le Devoir, le Montreal Star, puis la Gazette. Et des fois ici là le Journal de Montréal puis Allo Police mais oui c'était tellement important pour moi parce que c'est important d'avoir de faits dans le livre parce que c'est sûr que c'est un sujet compliqué. Aussi, je suis un anglophone, alors c'est un autre enjeu ici. Donc, mais c'est alors pour moi, c'est tellement important de étayer chaque fait dans le livre, à la fin du livre, parce que quand tu as dit, il y a peut-être 30 ou 40 pages de notes de fin d'ouvrage.
Donc, ça permet de savoir, en fait, puis de, j'imagine qu'il y a une relation de confiance qu'il faut installer quand on amène vers un récit historique comme ça. Donc, ça permet de créer peut-être un climat de confiance, puis après ça, de plonger, sachant justement que, on tombe pas dans l'invention, d'une certaine façon. Donc, il y a une crédibilité que vous assisez un peu avec cette approche-là.
Oui, c'est ça. Donc, parce que quand j'ai dit, j'ai appris plusieurs choses quand j'ai fait des recherches. Puis, il y a plusieurs choses à propos de l'étude du but du FLQ, comme par exemple. Le fait que deux des premiers fondateurs de FLQ n'étaient pas québécois, ils étaient des immigrants récemment arrivés ici. Oui, il y a tellement de choses frappantes que j'apprenais.
Et dans le contexte aussi, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, le livre sort simultanément en langue anglaise et en langue française. C'était un désir, c'était une volonté d'entrée de jeu de votre côté aussi, parce que souvent, il y a quand même un délai entre la version originale que vous avez écrite en anglais et la version traduite. Mais là, on retarde, dans le fond, la version anglaise pour que ça sorte simultanément.
Exactement, parce que pour moi, c'était tellement important d'avoir les deux éditions au même temps, parce que quand tu as dit, je ne sais pas si tout le monde connaît cette fait, mais avec une traduction, il y a souvent un délai de 1 an, 2 ans peut-être. Donc, de mon côté, j'ai terminé ce livre il y a presque 2 ans. Alors, j'ai reporté l'édition anglophone pour avoir le temps de faire la traduction, puis chez Pau-Pau. Puis, et en fait, au bout du compte, les deux livres sont sortis au même temps, exactement le même jour.
Et c'est d'une certaine façon, c'est un peu incontournable de dire, OK, il faut que les deux versions soient disponibles. Sur un sujet comme ça, on n'a pas envie d'avoir un 2 ans d'attente pour le
Exact,
côté symbolique, si on peut dire.
oui, c'était tellement important parce que c'était un sujet très important qui parle des événements qui se sont produits ici au Québec. Puis, alors pour moi, c'était important d'avoir une édition francophone publiée par une maison d'édition du Québec aussi.
Et j'imagine qu'avec un sujet comme ça, moi je le connais plus du côté francophone. Évidemment, on parle des fois de deux solitudes et j'ai l'impression que c'est viable aussi dans la place que certains récits et que certaines portions de l'histoire vont prendre, tant du côté anglophone que du côté francophone, dans le Canada français, dans le Canada anglais, autant que dans le Québec français et dans le Québec anglais. Donc, j'imagine que d'un côté, on écrit pour un public québécois qui en a entendu parler, dont ça fait partie de l'histoire qu'on a appris, mais pas nécessairement dans le détail. Et en parallèle, pour un public qui est anglophone, qui lui en a peut-être encore moins entendu parler, voire même peu entendu parler, donc
Oui.
là, on va faire réaliser que ça existe au bout du compte.
Oui, tu as raison, tu as raison. Mais je crois qu'avec ce premier livre, parce que ce livre parle seulement de les événements des années 60, je crois que même pour les francophones, il y a peu de monde qui ont entendu parler de ces trois premières vagues du FLQ, parce que là, on avait premièrement, on avait la première vague de George Shooters qui a été fondée par George Shooters. Et je crois que presque aucune personne a entendu parler du nom de George Shooters. Puis après ça, on avait la deuxième vague de François Schirm. Il était un immigrant de Hongrie. Imagine ça. Un immigrant de Hongrie a été l'un des fondateurs principaux du FLQ. Et aussi, je crois que tellement, même ici au Québec, je crois que très peu de monde a entendu parler de ça. Puis la troisième vague, c'était la vague fondée par Pierre Vallière. Et c'est sûr que Pierre Vallière c'est sûr que tout le monde a entendu parler de Pierre Vallière. Et c'est sûr qu'il était un homme très important dans l'histoire du Québec. Mais quand même, dans ce cas, je crois que peu de monde a entendu parler des événements réguliers au Pierre-Vallière au début du FLQ. Donc, parce que Pierre-Vallière, par exemple, Juste avant le feu, il a aidé le gréviste dans une usine de chausseurs pendant un an. C'était pas seulement pour une semaine ou quelques jours. Il était là chaque jour avec une pancarte de piquetage pour aider les grévistes dans leur lutte d'avoir de meilleures conditions de travail. Alors, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses tellement inconnues reliées au sujet du FLQ des années 60. Mais c'est sûr
Oui.
qu'avec les anglophones, c'est sûr que c'est moins connu, oui.
Oui, j'imagine que c'est après ça, c'est toujours un peu dans les dynamiques où, par exemple, sur l'exploitation des Canadiens français à l'époque, le positionnement social qu'il y avait à l'époque. D'ailleurs, vous avez choisi de démarrer le livre avec la déclaration d'un des dirigeants du CN de l'époque qui avait dit, et c'est dans un ensemble d'éléments qui avaient constitué, si on peut dire, une montée de revendications canadiennes-françaises, des revendications qui allaient devenir celles des Québécois, québécoises au fur et à mesure de l'évolution des époques, mais de prendre conscience qu'on était loin de l'équité, si on peut dire, il y a à peine une cinquantaine, une soixantaine, 80 ans, et c'est ce qui avait monté. Donc, pour le contexte, pour les gens qui vont lire l'album, ben, le président du CN qui dit, ben, regardez, il n'y a personne de qualifié du côté canadien-français. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a personne de canadien-français qui fait partie de cet ensemble-là. Donc, en deux planches, on réussit à mettre le cœur, dans le fond, de ces préoccupations-là, à l'exprimer quand même de façon assez incisive, assez directe, en accent sur cette déclaration.
Oui, mais je crois que c'était toujours important de mettre tout ça en contexte parce que, par exemple, je crois que c'est le cas avec certains anglophones et même peut-être certains francophones au moins à côté anglophone, peut-être peu de monde, non pas vraiment peu de monde, mais il est important de dire que le contexte pour le francophone à cette époque, ça veut dire à la fin de la Grande Noirceur et juste avant la Révolution tranquille, la situation était tellement injuste parce que, par exemple, la plupart de francophones ont gagné la moitié du salaire de leur homologue anglophone, qui l'Église catholique dirigeait le système éducatif, et les portes étaient fermées pour la 90% pour les francophones pour aller à l'université. Donc, c'était tellement une situation inégale. Et c'est pourquoi, au début de mon livre, j'ai cette scène avec Donald Gordon, le président de CN Railway.
Et après ça, ben dans le fond, le livre est centré sur les trois personnages, les trois entrevues,
Oui,
entre guillemets.
exactement, exactement. Oui, les livres sont centrés sur les trois personnages. Oui.
Et vous avez choisi d'aller vers une approche de faux documentaire, mais inspirée d'une vraie documentation. Donc, ça permet à vos intervenants de s'adresser aussi directement au lecteur. Ça permet de structurer, dans le fond, de dire, bon, OK, je vais faire comme si j'avais eu accès à des extraits vidéo et transformer des extraits écrits, des extraits de journaux, des extraits d'entrevues, des extraits de livres, d'autres témoignages en un documentaire. Au bout du compte, j'imagine côté structure, ça ouvre la porte à beaucoup de mécanismes, à beaucoup de façons de raconter.
Oui, c'est ça tout à fait. Parce que je suis toujours fasciné d'avoir points de vue différents. Alors peut-être par exemple, on peut avoir une scène racontée par un personnage, peut-être le maire de Montréal à l'époque, qui était Jean Drapeau. Alors Jean Drapeau dit, par exemple, il dit que le FLQ a posé une bombe qui a causé qui a semé du chaos. Puis après, tu peux avoir la même scène racontée par un membre du FLQ qui va dire, lui, il va dire que, oh oui, on a fait un attentat, mais c'était pas une bombe, c'était un cocktail Molotov, puis on n'a pas fait beaucoup de dégâts. Alors, la scène étayé par de faits, parce que quand je dis les journaux, des livres, choses comme ça, mais certains éléments spécifiques ou comme ça, est-ce que c'était une bombe, est-ce que c'était une Molotov cocktail, choses comme ça, c'était des fois c'est différent.
Parfait, tout n'a pas été filmé, donc ça repose sur des témoignages qui sont contradictoires, et l'approche
Oui.
permet d'illustrer le fait que y a les éléments qu'on sait, dont on est absolument certain, mais après ça, il y a des zones de flou qui persistent encore entre une variété de témoignages, une variété de versions.
Oui, exactement. Oui, exactement. Exactement. Par exemple, j'ai une scène dans le troisième chapitre, le chapitre de Verrières, puis j'ai une scène racontée par une gréviste, un ouvrier qui était en grève, puis il raconte une scène selon laquelle toutes les choses que Valière a fait puis après la même scène est racontée par un agent de la GRC qui a été infiltré le groupe d'ouvriers, puis il a utilisé le même phrase, presque la même phrase, mais au bout du compte, il dit que Verrières est un criminel, puis il va semer le chaos, choses comme ça. Mais le premier gars, à la fin, il a dit que, oh non, Valier, il nous a aidés, c'est un gars formidable. Alors, il utilise le même mot, plus ou moins, mais à la fin, c'est des choses complètement différentes.
Et tout ça avec le sous-temps, surtout pour, entre autres, je trouve les épisodes de Shooters et de Chirm, donc les deux premiers épisodes, dans le fond, du FLQ, il y a un côté, dans le fond, on parlait d'une problématique sociale qui est importante, qui est majeure, dont la prise de conscience collective va avoir aussi un rôle majeur sur le développement du Québec par la suite. Il y a un côté tragique dans la réponse qui est donnée par Shooters et Chirm face à cette réalité-là, dans leur désorganisation, dans ce qui va se passer, dans comment ils vont mener les choses aussi au final. Donc, il y a un côté un peu tragique, un peu désorganisé, très chaotique comme parcours au final qui émerge de ça. Donc, à la fois humoristique et à la fois tragique d'une certaine façon.
Oui, bien sûr, parce que par exemple avec Shooters, il a été inspiré par Fidel Castro, puis il a rencontré au moins 3 fois. Pour lui, Castro était un héros. Donc, Shooters a eu l'idée de faire une révolution ici au Québec. Puis, mais quand tu as dit à la fin, c'était du chaos parce que d'abord il a utilisé de cocktails Molotov, puis ensuite il a mis de boîtes de dynamite dans leur cuisine avec il avait 2 enfants dans un appartement à Côte-des-Neiges. Il habitait dans ce petit appartement à Côte-des-Neiges avec sa femme et ses deux enfants. Puis il a fabriqué le cocktail Molotov dans leur cuisine. Et aussi dans cet appartement à Côte-des-Neiges, il a eu le toute première réunion du FLQ. Ils ont écrit le premier manifeste du FLQ là-bas aussi. Oui, je crois qu'il y avait toujours un élément de chaos dans ce cas, même avec par exemple, l'opération Westmount, le FLQ avait l'idée de poser des bombes dans 10 boîtes aux lettres dans le quartier anglophone riche de Westmount. Et à cause de ça, une personne, un ingénieur de l'armée, a été grièvement blessé quand il a tenté de désamorcer l'une des bombes. Alors oui, il y avait toujours des éléments comme ça. Et même quand tu as dit avec la deuxième vague de François Sturm, il a eu l'idée de faire un camp d'entraînement des guerrilleros au fond du bois. Puis, c'est sûr qu'il avait à peine des armes pour s'entraîner. Alors, il a vu l'idée de faire une tentative de braquage d'un magasin d'armes à feu à Montréal. C'était fou parce que deux employés du magasin ont été abattus, tués par accident. C'était par accident. Oui, le FAQ avait beaucoup de expériences tristes comme ça. C'était fou.
Et ça permet, en fait, d'un point de vue scénaristique, la désorganisation ressort, les intentions sont là, sont campées. Mais tranquillement, on voit la cellule, en fait, chaque cellule qui essaie de s'organiser, qui essaie de donner une direction à ses actions. Et là, tranquillement, on a un crescendo vers cette implosion-là, au final, où ils vont faire quelque chose, mais la loi de Murphy s'applique. Finalement, il n'y a rien de ce qui est prévu qui va fonctionner. Et on a toujours un crescendo dramatique qui nous ramène ensuite vers le politique aussi, qui contextualise ces éléments-là, mais qui instrumentalise peut-être aussi un peu ces éléments-là, dans la mesure où il y a une discordance ou une dissonance entre le discours officiel et ce qui en est dit, puis la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain, qui n'est pas nécessairement dans le même équilibre ou avec la même envergure que ça va être présenté par les élites et les élus par la suite.
Je crois que c'était pas seulement le FLQ qui était incompétent. Par exemple, et c'était ça, c'était pas seulement la première vague ou la deuxième vague du FLQ ou la troisième vague qui était incompétent, parce que c'était une caractéristique de probablement tous les mouvements révolutionnaires mondiaux de cette époque. C'était pas seul. Donc, c'est sûr qu'on peut regarder ce qui se passait avec le FLQ. On peut dire que il était tout incompétent. Mais par exemple, aux États-Unis, on avait un autre groupe radical qui s'appelait le Weather Underground. Puis c'était exactement comme ça. C'était exactement comme ça. C'était une cellule de 7, 8 personnes. C'est toujours comme ça. 7, 8, 9 personnes, pas vraiment beaucoup. Puis avec le cas avec le Weather Underground, trois de leurs propres membres ont été tués par accident lorsqu'ils ont construit une bombe, et la bombe a explosé. L'explosion a complètement détruit la maison à Greenwich Village où il s'est caché. Donc, je crois qu'avec chaque mouvement révolutionnaire de cette époque au monde, c'était comme ça. Je sais que dans l'Amérique du Sud, il y a d'autres mouvements, il y avait d'autres mouvements révolutionnaires de cette époque. Alors, c'était pas seulement le FLQ, parce que c'est sûr que tout ce groupe-là avait des idées utopiennes, mais quand tu as dit souvent la réalité à la fin était différente.
Exact. Et dans le fond, on le place dans le contexte, je pense que c'est intéressant, dans le contexte global, c'est un outil de réponse à une forme d'oppression qui est vécue et on l'exprime un peu par des actions qui sont plus extrêmes, plus radicales, autant qu'au Québec, c'est à mettre en parallèle avec la montée du Parti québécois, avec la montée de l'identité nationale, avec... Donc, il y a un contexte social, le FLQ fait partie de ce contexte-là, c'est une expression de ce malaise-là qui se rentre dans un ensemble d'expressions du même malaise aussi.
Oui, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Oui.
Évidemment, le livre Mourir pour la cause, donc le sous-titre, c'est Révolution dans le Québec des années 1960. Évidemment, c'est la première partie, il y a beaucoup à dire. Et donc, on va tomber dans le deuxième livre, dans le fond, dans les années 70, dans le cœur de ce qui est peut-être le plus connu aussi de l'action du FLQ avec le chemin vers la crise d'octobre.
Oui, exactement, oui.
Et ça, on parle l'année prochaine ou est-ce que c'est un échantillon assez rapproché ou.
Non, les choses vont pas très vite pour moi. Mais il m'a fallu environ 6 ans pour travailler sur ce livre. Alors, probablement encore un autre. Il m'en faudra avoir encore un autre 6 ans. Alors, oui, c'est ça. Malheureusement pour moi.
On a mis la main dans l'engrenage et on se rend compte que ça, il y en a beaucoup plus à dire, à organiser. Ça amplifie la tâche.
Oui, c'est ça.
Alors, ben, d'ici là, évidemment, on découvre cette forêt, donc dans les prémices moins connues, je pense qu'on le dit, il faut le répéter, du FLQ avec Mourir pour la cause. C'est disponible donc, du côté francophone chez Pow Pow également. En version anglophone chez Drown and Quarterly. Chris Oliveros, merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous.
OK, merci beaucoup, Raymond. Merci.
Toujours à l'écoute de la vie en BD. Raymond Poirier toujours avec vous. Et maintenant, on porte un regard sur un album qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur les étaux des libraires. Un album qui nous ramène vers les mouvements citoyens, qui nous ramène vers les rêves, les utopies et les façons et les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour en faire des réalités. Alors, ça s'appelle Résister et fleurir. C'est du côté d'édition Éco-Société. C'est scénarisé par Jean-Félix Chénier. Dessiné par Joachim Bélanger. Alors, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, la bande dessinée nous amène en 2020. On est en pleine formation, en fait, dans un cours au collégial, au Collège Maisonneuve, où Jean-Félix Chénier vous enseignait. Et on essaie donc, entre le théorique un peu et la réalité du terrain tout au long de l'album, autour de questions d'utopie, d'engagement, entre expérience et réflexion. Et tout ça centré au final autour aussi de la réappropriation d'un terrain laissé à l'abandon dont les citoyens sont appropriés, le parc nature, dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Un sujet qui s'est imposé d'abord à travers le cours, de ce que j'en comprends, c'est une étudiante qui vous a amené ça.
Exactement. Moi, je donnais un cours là, qui s'appelait Utopie, dystopie, le point de bascule, puis on réfléchissait beaucoup, c'est ça, à la société idéale ou aux sociétés frissonnantes, là, t'sais, celles vers lesquelles on ne veut pas aller. Puis dans le cadre du cours, les étudiants devaient rédiger un essai, puis une étudiante, Lilou Seili, qui a rédigé un essai qui ressassait des notions du cours, mais qui portait donc sur un terrain vague qui était en train de se faire, on pourrait dire, détruire par une entreprise, Raymond Logistique, qui est une immense plateforme, dans le fond, de transbordement de conteneurs, là, qui, en s'établissant, bien, vient asphalter un ancien ruisseau, puis détruire une forêt qui est en train de prendre forme, puis surtout un milieu naturel que les gens investissaient, là, particulièrement dans le contexte de la pandémie. Fait que c'est devenu un exemple concret des notions du cours, puis ça a permis, dans le fond, de documenter aussi une lutte sociale.
Et donc, on se dit, dans le fond, dans le contexte du cours, on veut l'utiliser, on s'intéresse un peu à cette mobilisation-là qui arrive d'ailleurs à côté de chez vous, pratiquement. Vous êtes aussi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, et c'est de l'investissement personnel qui est venu l'idée de dire, ben OK, on va essayer d'amener ça à travers le médium de la bande dessinée pour porter le discours, puis porter la théorie qui l'entoure aussi, dans le fond.
Exactement. Tu sais, c'est un exemple assez clair là, de quand la mondialisation économique arrive dans un quartier puis qu'elle détruit un milieu qui est, où la nature est en train de reprendre ses droits, puis elle vient gâcher la vie, la qualité de vie, la santé, l'environnement de gens qui sont déjà dans un quartier fragilisé, là, Hochelaga-Maisonneuve. L'espérance de vie à la naissance est 10 ans presque plus basse qu'ailleurs à Montréal, puis le taux de surmortalité dans le contexte des vagues de chaleur, c'est un des plus hauts au Canada. Fait que, tu sais, c'est quand même un problème économique, social, puis écologique, là. Et donc, c'est intéressant parce que là, on présente souvent le marché comme le meilleur modèle de coopération possible ou la seule façon de satisfaire nos besoins. Mais dans le fond, il y a des angles morts au marché, puis en voilà un bel exemple, tu sais. Donc, comment. Ces notions-là, très politiques, s'incarnent concrètement, finalement.
Oui, puis dans un contexte où on présente l'utopie comme quelque chose qui est au final assez terre à terre, et qui est une utopie uniquement à cause des dérives d'un système, dans le fond, qui oublie parfois la santé des citoyens, au final.
Exactement, exactement.
Et Joachim Mélanger, Jean-Félix Chenier, vous êtes voisins, donc l'idée de collaborer est venue de cette proximité-là, est venue d'une communauté d'intérêts, c'est devenu une excuse parce que vous vouliez faire un projet ensemble, c'est toutes ces réponses.
C'est un peu toutes ces réponses là. Clairement, en pandémie, on s'est retrouvés en bulle commune en tant que voisins. Puis on dissertait, on se demandait comment on pouvait essayer de faire un projet en commun. Puis par le moyen de la BD au départ. Fait que j'ai suivi le cours de Jean-Félix via les Zooms avec les autres élèves. Puis tranquillement, c'est là que ça s'est imposé de OK, le sujet il est juste là, les interactions de tous les élèves. Comme le dit souvent Jean-Félix, le fait qu'on soit chacun dans notre case, t'sais, les élèves, le prof, c'était vraiment facile après ça de rentrer ça, si on veut, dans une BD, puis de faire dialoguer tout le monde ensemble. Puis tranquillement, ben, au travers de ce cours-là, il enseignait justement le texte de Lilou. Il faisait lire l'essai que Lilou avait présenté. Puis c'est comme ça aussi que nous, on a commencé à s'impliquer dans cette mobilisation-là. Dans notre quartier, qu'on a commencé à... Bon, moi, je suis en art visuel, fait que il y avait déjà sur le terrain une sculpture de Junko qui était, si on veut, le symbole de la lutte, là. Ça, c'est un artiste ici à Montréal qui met des sculptures souvent dans des terrains vagues à l'aide d'objets recyclés. Puis, donc là, il y avait une immense sculpture sur le sommet de la butte avec un slogan, puis déjà des affiches partout dans le quartier qui s'appelle Résister, fleurir, beaucoup le slogan. Donc, ni une ni deux, nous, j'ai fait des affiches, puis on s'est mis à s'impliquer comme ça dans le mouvement. Puis, ben, tranquillement, pas vite, ça s'est comme imposé de, OK, ben, la BD, il faut que le sujet, ça soit cette lutte citoyenne-là, qu'on pourrait, amener au travers ton cours avec les échanges d'étudiants et un échange avec la mobilisation 6600, qui est l'organisation, ben, c'est pas une organisation, c'est plutôt un groupe de militants dans Hochelaga qui ont à cœur ce projet-là depuis le début, là.
Qu'on se retrouve, en fait, je trouve ça intéressant parce que vous avez une panoplie de rôles à l'intérieur du même ouvrage, dans le fond. Jean-Félix est l'expert, dans le fond, tu es l'enseignant, tu amènes le côté théorique, mais tu as aussi un investissement concret à l'intérieur de cette cause-là. Même chose pour Joachim, à travers les couleurs, les éléments, tu deviens le témoin, dans le fond, c'est un peu t'es parmi les réceptacles de l'information, tu as un engagement aussi. Donc, on le sait entre le côté un peu pédagogique, le côté un peu engagé, le rôle militant, puis le côté scénariste, dessinateur, où vous avez à faire des choix aussi entre les éléments, entre les rôles, entre l'importance que vous donnez à l'un ou à l'autre, puis comment créer cet équilibre-là à l'intérieur de l'ouvrage, parce que vous ne pouvez pas vous désinvestir complètement. Mais d'un autre côté, si vous investissez complètement comme militant, on perd un peu l'expertise dont vous êtes porteur également. Donc, comment on trouve, comment on joue avec cet équilibre-là?
Ouais, mais c'est pas comment. Vas-y donc, Yoak.
Non, mais c'est juste que tu nommes bien,
Ouais.
c'est un enjeu constant, si on veut, dans l'élaboration de ce projet-là. Ça fait 3 ans, on a travaillé pendant 3 ans là-dessus. Il y a eu énormément d'étapes, de maquettes et de bouts raturés pour justement en venir à cette espèce d'équilibre-là où je crois que tu le dis bien aussi à un moment donné dans ton cours, Jean-Félix, où est-ce que tu veux, ben vas-y donc, tu veux pas être un prof, là, tu veux
Ouais.
pas
C'est ça.
embrigader.
Je veux pas embrigader les étudiants. Tu sais, moi, j'ai toujours haï ça, un prof qui impose un peu sa vision puis qui discrédite toutes les autres visions. Mais je veux pas non plus faire à croire que moi, je suis neutre dans cette lutte qui oppose Raymond Logistique aux citoyens de Schlagamaison-Neuve. J'ai choisi mon camp, c'est celui de la lutte citoyenne, mais je veux pas non plus dire aux étudiants, les embrigader dans la lutte puis diaboliser le promoteur qui est dans son droit. Hein. C'est aussi donc ça qui est intéressant, c'est de démontrer que tout notre système de droit est bâti sur le régime de propriété puis que ça peut conduire à des abus, le droit de propriété. Ça peut conduire à un droit de détruire la nature, à des inégalités sociales, à l'exploitation dans le travail. Et donc, ça devenait un exemple concret à partir duquel penser des notions du cours. Puis c'était juste, dans le fond, une façon de faire atterrir, ouais, la dimension théorique du cours dans quelque chose de très tangible, de très concret. Puis en même temps, ça démontre que ouais, on est des êtres humains, puis on a le droit d'avoir des postures aussi, là. Fait que je suis un peu dans cette espèce de recherche d'équilibre entre le savant et le politique, là, c'est-à-dire entre l'intellectuel qui prend une certaine distance, puis le militant qui a une cause à défendre. T'sais.
Et puis comment faire résonner les deux ensemble, puis que les deux servent mutuellement au final
Exact.
aussi.
Exact. Pour
C'est
que
là.
les étudiants se sentent à l'aise aussi d'avoir des points de vue adverses, puis que la parole soit libre, parce que c'est aussi une des leçons du cours, c'est que l'utopie, c'est aussi un dialogue dans un jardin. Donc, c'est la possibilité justement d'exprimer différents points de vue puis de les faire se rencontrer.
Et à travers ça, en fait, je pense que si on se reporte dans le premier lieu, qui est la classe virtuelle, au final, en fait, on le dit, on est dans un Zoom, donc les cases se prêtent bien, on a une panoplie de portraits, et on sent, et c'est un peu de là qu'il y a un côté de construction, un peu, on sent qu'il y a une ligne que le scénariste a tissée, mais on sent une volonté de l'éclater, la ligne, pour justement nous garder toujours dans une dynamique de dialogue, nous donner l'impression que cette ligne-là se construit aussi au fur et à mesure des échanges. Et j'imagine que ça, c'est l'expérience de l'enseignant aussi, où à un moment donné, tu finis par savoir un peu ben, qu'est-ce qui est dit généralement, c'est quoi les divergences, les divergences, pour créer un récit qui semble organique, dans le fond, de cet échange-là que tu as avec les étudiants.
Ouais, mais je pense que les discussions étaient naturellement aussi, tendaient naturellement. On s'est beaucoup collé à la réalité du cours. Hein. On a enregistré nos Zooms, on les a retranscrits. On est allé chercher, bien sûr, les interventions les plus intéressantes, les plus probantes, les plus riches. Mais c'est assez fidèle à la réalité du cours telle qu'il s'est déployée. Puis, ultimement, effectivement, on voulait comme prendre un peu de recul, puis après ça, offrir un portrait des gens de la lutte parce que finalement, les raisons pour lesquelles ces gens-là se mobilisent, ben, sont en lien avec les notions du cours, sont en lien avec les utopies qui ont été abordées par les étudiants. Fait que ça devenait très instructif aussi de se rapprocher des militantes parce que c'est surtout des filles, hein, qui sont au cœur de cette lutte-là, et des raisons fortes qui les ont amenées à vouloir défendre ce territoire-là contre la destruction puis l'établissement de conteneurs, tu sais, sur un territoire.
Puis ça fait des appendices un peu coraux, j'ai l'impression. Au début, on a la classe, les élèves autour du Zoom un peu carré dans l'espace virtuel. À la fin, chapitre 3, c'est les constellations de militants, dans le fond, qu'on retrouve avec plusieurs visages qui interviennent pour montrer que cette lutte est incarnée par une multiplicité d'individus aussi. Et j'imagine que ça devient aussi assez riche, Joachim, côté portrait, côté organisation. Je veux dire, on met de l'avant l'humain dans différents contextes, dans différentes facettes, puis à travers, j'imagine, différents profils aussi.
Ouais, puis ça allait de soi aussi de finir dans la friche, t'sais, tout le long de la BD ou du cours de Jean-Félix, il n'arrête pas de nommer justement que l'utopie aussi, c'est une discussion dans un jardin, t'sais que, bref, je schématise peut-être mal, là, mais dans tous les cas, ça devait se terminer pour nous dans le terrain vague. T'sais, moi, j'ai vraiment été un genre de documentariste dans ce projet-là, où il y avait tout le cours de Jean-Félix en Zoom, toutes ses notions. Après ça, il y avait son côté personnel à lui aussi, sa vie, si on veut, en dehors des classes. Et la mobilisation à côté. Puis, tu sais, comme moi, j'ai pigé mes illustrations, je les fais beaucoup à partir de photos. Donc, je suis allé sur le site de la mobilisation 6600 où que tous les citoyens d'Hochelaga mettent des photos du terrain vague, des oiseaux, des activités qui ont cours là. Puis j'ai pigé là-dedans, tu sais, fait que c'est vraiment un travail, si on veut, de documentariste, on dirait que je me suis retrouvé à faire. Et la BD, c'était comme le montage là, du projet. Hein.
Oui, puis en fait, tu mentionnes trois éléments, mais je pense que justement, il faudrait en dire un quatrième, qui sont les illustrations où le lieu, la lutte vit aussi. Des fois, simplement avec la narration du texte de Lilou Seili, des fois sans narration, simplement en vivant par elle-même. Et à travers, puis je pense qu'on peut le mentionner à ce moment-ci, dans le fond, un choix de couleurs qui sont très, très vives, très, très vivantes, très, très lumineuses aussi. J'imagine qu'on présente une utopie, on ne pouvait pas la présenter dans des couleurs sombres, dans des couleurs neutres. Il fallait aller vers quelque chose qui était aussi florissant, dans le fond.
Ouais, ben, tu sais, la BD est très dense aussi, là, tu sais, c'est un objet quand même qui a beaucoup de notions, beaucoup de textes. Puis je me voyais mal arriver avec des couleurs très sombres, ou même le propos peut être un peu pessimiste là, des fois. Donc moi, je voulais vraiment, justement, exemple, dans les conversations des étudiants, montrer l'intelligence et la pertinence de leurs propos avec justement ces couleurs vives là, leur éclat de lucidité. Le terrain vague, c'est quand même une espèce de terrain étrange, là, très punk aussi. Donc là, c'est pour ça que j'y étais avec des couleurs vert fluo et magenta, fuchsia, très vives, là, tu sais. Une espèce de no man's land, mais quasi post-apocalyptique à construire, tu sais. Donc, c'était tout ça ensemble, j'étais comme, OK, non, je veux que ça soit vivant, puis qu'il y ait de l'espoir aussi, justement, au travers des couleurs, puis beaucoup d'expressivité, là, si on veut, là, dans les traits.
Vous voulez qu'il y ait de la lumière vers la fin, que le livre finisse avec quelque chose d'optimiste, tu sais, parce que l'époque qu'on traverse, c'est pas facile, là, puis moi, je veux pas transférer mes angoisses ou mes inquiétudes aux étudiants, puis devenir un genre de professeur de désespoir. Fait que il y a de l'espoir, puis on le voit même sur le plan visuel, pas juste dans le propos. Le chapitre final, les images sont plus ouvertes, entre guillemets. Ça respire, ça donne le goût d'aller voir ce terrain-là, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Puis on voit le possible meilleur. Tu sais, on voit comment l'utopie s'est en train tranquillement de se constituer là, de différentes manières, parce que la lutte pour la défense de ce territoire-là, n'est pas gagné, mais il y a des petites victoires quand même qui s'accumulent, au fur et à mesure qu'on avance.
Et puis la grande victoire étant aussi la communauté qui s'est créée autour de ça, le fait qu'une utopie ancre, j'imagine, aussi des gens ensemble et les autres, leur donne un objectif commun. Donc, peu importe ce qui arrive avec ce projet-là, je veux dire, les gens puis le quartier vont s'en trouver transformés d'une manière ou d'une autre.
Exactement. Ça c'est vraiment une des dimensions importantes là, ouais, du chapitre final, là. On s'est trouvé hein, comme communauté. Ça a renforcé vraiment le lien là, dans Hochelaga Maisonneuve. Là. Moi, je le vois en tout cas pour moi. Tu sais, je veux dire, avant, j'avais Joachim comme voisin, mais là, j'ai tu sais, vraiment une collectivité là, qui s'est soudée autour de cette lutte-là. Là.
C'est ça, c'est tellement beau de voir ça, l'implication de monsieur, madame, tout le monde dans le quartier. Comme l'a dit Jean-Félix, beaucoup de femmes qui sont très impliquées. Il y a tellement d'efforts qui sont mis pour défendre ce terrain-là. C'est là que tu sens que tout le monde est réellement amoureux de ce terrain de. T'sais, on s'entend, c'est pas un petit terrain, hein, c'est l'équivalent de 30 Costco, là. Donc, c'est immense. C'est comme si on rasait le parc La Fontaine ou le parc Maisonneuve à Montréal, puis qu'à la place, on asphaltait tout ça pour y mettre des containers. Donc, tu sais, y a un vrai amour qui est né sur ce terrain vague-là. Et il y a quand même aussi une réelle colère qui est montée. Tu sais, tout le monde est ensemble contre le projet de Raymond Logistique, là.
Oui, puis dans le contexte, enfin, on l'a dit en début d'entrevue, je veux dire, il y a plein d'arguments qui appuient la nécessité d'avoir un espace vert, plein de facteurs, donc que ça devient un peu un non-sens. C'est pour ça que c'est drôle, parce que l'utopie paraît terre à terre, paraît être la solution raisonnable à un problème qui est documenté, qui est identifié, qui existe, et c'est un peu le non-sens que ça soit déraisonnable comme demande. Au bout du compte, il y a une colère qui ressort aussi en lisant un truc comme ça. Autant qu'en regardant des luttes similaires, je veux dire, mais pourquoi on lutte pour ça? Pourquoi faut lutter pour ça?
Exactement, il y a comme quelque chose. Il y a un des slogans de la lutte, là, t'sais, résister et fleurir, c'est le slogan principal, mais il y a un des slogans qui disait nous sommes terre à terre. Donc, c'est une façon aussi de dire effectivement, c'est qui les réalistes dans ce débat-là? Est-ce que c'est ceux qui poussent à toujours plus de croissance, donc toujours plus de destruction, d'extraction dans le contexte des changements climatiques et de la crise de la biodiversité? Je ne pense pas que c'est eux les plus réalistes. T'sais. Le groupe intergouvernemental d'évolution sur le climat, le GIEC de l'ONU, il dit tous les espaces verts, il faut les préserver, puis les espaces qu'on peut renaturaliser, il faut les renaturaliser. C'est ça la solution. Donc, on est vraiment dans l'optique des solutions concrètes, puis peut-être même réalistes dans le contexte des multiples crises qui nous assaillent, là. Fait que c'est intéressant de voir qu'effectivement, ceux qu'on qualifie d'utopistes, c'est peut-être les réalistes. Ceux qui se disent pragmatiques, ben c'est peut-être des idéologues un peu déconnectés de la réalité, tu sais.
Et tout ça dans un jeu d'équilibre. On parlait un jeu d'équilibre entre les fonctions, mais je pense on l'a mentionné aussi dans le ton puis dans l'amplitude des propos d'une certaine façon, dans la mesure où le cours de sciences politiques, parce que c'en est un aussi, je pense que ça devient d'ailleurs une parenthèse, une belle porte d'entrée pour aller creuser ces notions-là. Il y a beaucoup de références, d'éléments qui sont donnés. Il faut réussir à le transmettre pour que ça soit fluide, pour que ça soit dynamique. On l'a dans le dialogue. Et pour pas perdre les gens non plus. Donc, j'imagine que ça doit être assez difficile pour la personne qui donne ce cours-là habituellement, de dire, bon, OK, on va le couper, on va le couper. Là, on a l'impression d'avoir fait tous les efforts du monde pour le couper. Joachim arrive avec les dessins, on met ça à côté, on dit, mais il faut que je le recoupe encore parce que là, on ne voit plus le dessin, il y a encore d'autres textes. Donc, ça doit être assez douloureux comme processus.
Ouais, mais il faut pas s'accrocher trop au texte. Puis Joachim, effectivement, là-dessus, il devient co-scénariste, là, parce que il faut que ça rentre dans les bulles. Puis effectivement, tu sais, ces dessins-là sont tellement beaux qu'on veut pas que le texte vienne les bouffer littéralement. Puis à un moment donné, l'image parle par elle-même. Fait qu'il faut savoir donc évacuer du texte pour que la BD respire, puis que l'image finisse par dire ce qu'elle a à dire. Fait que Joachim, ouais, il devient co-scénariste là, à ce moment-là. C'est un travail de montage, on peut dire. Puis on travaillait de manière très artisanale. Hein. Moi, je collais des post-it sur ses dessins ou je découpais mes textes pour voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ne rentre pas. Puis on peut voir des fois ce travail-là là, dans la BD, là, ce visuel-là. On l'a gardé des fois, le texte découpé, collé un peu de manière très artisanale là, sur les dessins d'Joachim.
Et ça permet, dans le fond, aussi, j'imagine, dans une logique un peu de co-construction. Donc, on n'a pas un récit qui est complètement cané au moment où le dessin commence. On n'a pas un dessin qui est complètement cané au moment où le récit commence non plus. Donc, vous jouez aussi en résonance l'un avec l'autre pour vraiment construire ce récit-là dans un contexte où vous n'avez pas nécessairement non plus la même compréhension au départ des éléments. Donc, ça devient un récit qui est plus organique aussi, j'imagine.
Oui, ben on s'est bien entouré. Je pense aussi qu'on a, tu sais, on a fait participer la mobilisation 6600 justement pour l'élaboration là des chapitres du chapitre final surtout. Donc tu sais, à la fin tout était bon là. Tu sais, ce qu'on coupait c'était bon quand même là. On coupait juste pour que ça soit plus fluide. Il me semble tout le monde on accroche à cette page-là. Il faut en enlever un peu, mais clairement tout était bon à la fin. Puis c'est ça, c'était comme tu le dis là, c'était un dosage à trouver pour que tu aies envie finalement de tourner la page, puis d'aller au bout du sujet, de comprendre l'idée, puis d'essayer de sortir de cette lecture-là avec un sentiment positif, tu sais, surtout malgré que tout va mal, là, tu sais, comme au moins ça va bien. Il y a un mouvement citoyen qui fait face à plusieurs Goliaths, là, comme c'est dit un peu dans la BD. Puis ça, c'est magnifique ce qui se passe finalement aussi avec ce mouvement-là. Puis tranquillement, ben, il y a des gains qui se font, puis on avance tranquillement pas vite, là.
Oui, ça va mal, mais le fait qu'on soit en mouvement fait qu'à tout le moins, ça va bien parce qu'on n'est pas, on n'est pas passif face
Exact.
à la situation, dans le fond.
Donc,
Puis on n'est
on pas cynique non plus, tu sais, on ne dit pas, ah, il n'y a rien à faire, tu sais. On se met en marche, puis c'est peut-être ça l'utopie, c'est se mettre en marche, tu sais, puis s'ajuster en cours de route, puis se découvrir une communauté qui a des valeurs communes, puis un attachement commun à un bout de territoire. Tu sais.
aussi
Puis
avoir l'impression de servir à quelque chose, t'sais, d'avoir l'impression de participer à un mouvement, c'est fou le bien que ça amène. T'sais. Moi, en général, je suis tout seul dans mon atelier, je fais mes trucs. Là, c'est la première fois qu'il y a un projet qui est autant porteur, j'ai l'impression, t'sais, auquel je peux participer, puis c'est ça, amener ma voix là, dans cette contestation-là. Là.
Et puis dans le contexte où on amène une voix de façon au-delà de l'investissement terrain à travers le livre aussi, en disant ben on va faire de cette mobilisation un cas d'espèce pour une démonstration plus large. Et ça veut dire aussi que ça met une pression supplémentaire pour l'ouvrage. Comme vous dites, à la fin, on va vers les gens de 6600, on va s'assurer que ça correspond au discours, dans le fond, parce que demain, vous allez être sur le terrain vague avec ces gens-là aussi, c'est vos voisins, vous allez les croiser 2 jours après le lancement. Donc, j'imagine qu'il faut avoir un ouvrage dont vous êtes d'entrée de jeu fier, puis dont vous avez, j'imagine, assez certitude que ces gens-là vont l'embrasser, vont partager cette fierté-là.
Ah ouais, moi c'était vraiment une grosse. C'était hyper important, là. C'était presque angoissant un peu. Je voulais absolument que tout le monde soit content, là, t'sais, à la fin, là, que tout le monde. S'il y a des trucs qui sont faux aussi qu'on affirme, t'sais, il faut qu'on soit dans le vrai quand même. Donc, c'est quand même, il y a un vrai travail de documentaire, là, qui a été fait, là, de documentation. Puis au final, présentement, ben, tout le monde semble heureux de ça. On est vraiment content du départ de la BD.
Oui, puis en fait, toujours un peu je reviens aux éléments d'équilibre, mais aux éléments aussi à capacité du dessin. Je pense qu'on fait référence à des slogans, des affiches et le reste. Ben, on a l'impression que vous avez choisi aussi certains symboles. L'œuvre de John Coe, dont on parlait au départ, devient un peu un des liens, en fait, parce qu'elle apparaît régulièrement dans le fond à l'intérieur de l'album, mais tranquillement, à travers le dessin, à travers le texte, à travers la contextualisation de. J'ai envie de mythifier un peu aussi cette lutte-là, de mythifier un peu ce lieu-là, de mythifier un peu les symboles associés à cette lutte-là.
Oui, c'est ça, c'est qu'on veut, on veut donner le goût aux gens aussi de s'attacher à ce territoire-là, de venir prendre une marche, parce que c'est un geste politique finalement d'aller prendre une marche dans ce territoire-là, là, ces temps-ci. Puis démontrer aussi de façon plus globale que c'est pas vrai que c'est une lutte locale uniquement. Tu sais, il y a plein de luttes partout dans le monde et tout le long de la vallée du Saint-Laurent qui sont des luttes équivalentes à celle-ci, c'est-à-dire des infrastructures de transport ou des condominiums ou de l'extraction minière ou de l'exploitation forestière qui se fait au détriment des communautés, puis qui est toujours dans une logique de pousser la croissance ou la mondialisation dans le même sens. Et donc, ça démontre que c'est pas vrai que c'est une lutte de pas dans ma cour, ultimement. Tu sais, c'est une lutte qui a une dimension internationale, là. C'est la mondialisation qui vient s'accaparer une nouvelle portion de territoire dans un quartier fragilisé. Tu sais.
Oui. Puis d'apporter en fait à travers le visuel, j'ai l'impression, une poésie aussi. Je pense parce que le même élément, c'est le scénario, je veux dire, ça se tiendrait. Il y a des choses qui en ressortent, qui sont claires, mais le fait de l'amener avec la couleur, le fait de l'amener avec le visuel, ça apporte une poésie, ça ajoute une dimension. J'ai l'impression qu'on n'aurait pas avec un essai, par exemple, ou avec un texte plus classique, qui aurait été un chemin tout à fait légitime de prendre, mais où on n'aurait peut-être pas cet investissement émotif d'entrée de jeu qu'on a avec la BD, qu'on a à cause de l'expressivité du dessin.
Puis là aussi, tout l'élément poétique, c'est beaucoup le texte de Lilou, tu sais, qui traverse la BD, là. Ça a été vraiment ça qui nous a aidé à structurer aussi, comment dire, les bouts qui sont plus denses versus un peu de légèreté, en guillemets, avec un propos très profond quand même, là. Mais au moins, le texte de Lilou, il est morcelé au travers de la BD. Puis ça amène un rythme et ça amène l'aspect poétique, moi, je trouve aussi, à cet objet-là, là.
Et puis ça multiplie les voix dans le fond parce que ça ajoute une voix qui n'est pas la vôtre, qui a inspiré la vôtre aussi.
Exact.
Puis en même temps, dans une dynamique de montage, parce que pour le scénariste aussi, j'imagine, ça donne plus d'outils. parce qu'on a plusieurs tons à travers lesquels on peut passer. Donc, quand on revient au jeu d'équilibre dont on parlait, ben, on peut l'atteindre aussi parce qu'on n'est pas que dans le lourd, un peu, entre guillemets, parce qu'au final, c'est pas si lourd que ça, mais dans le pédagogique, on passe d'une voie à l'autre, on passe d'une ambiance à l'autre, d'un lieu à l'autre. Donc, ça varie les choses. J'imagine que le défi a été après ça d'assembler aussi parce qu'on a la trame fine. Après ça, qu'est-ce qu'on amène où, par qui, par quel contexte, par quelle voie aussi.
Ben, c'est là que je dis aussi que ça devenait une colonne vertébrale, le texte de Lilou, parce que, tu sais, on l'a découpé en plusieurs segments, en trois segments, quatre, cinq segments, qui sont autour des trois chapitres. Mais si on veut, les propos qu'elle abordait, ben, c'est correct. OK, on allait appliquer les notions de Jean-Félix par après. C'est ça qui suivait finalement dans le chapitre suivant. Donc, elle nous a vraiment aidé à structurer parce que dans son essai, elle aborde pas mal toutes les notions que Jean-Félix abordait dans son cours. Tu sais, donc, c'était quand même, tout était dans tout, là, c'est ça.
C'est devenu votre fil d'Ariane d'une certaine façon.
Oui, exactement.
Vraiment, vraiment,
Puis c'est, ça
vraiment.
avait la beauté d'être un. Tu sais, moi, je leur faisais faire un essai parce que ça correspond un peu au sens que je donnais à l'utopie dans le cadre du cours. L'essai, c'est une tentative. Tu sais, c'est pas quelque chose. C'est pas une pensée qui est arrêtée. C'est une pensée qui est en mouvement puis qui est un peu incertaine même. C'est un essai. Et donc, puis il y a une dimension poétique, il y a de la liberté dans le style avec l'essai. Et donc, toute la dimension politique est là, mais dans une certaine dimension poétique aussi. Fait que ça devenait très, très intéressant parce que c'est pas scolaire. Tu sais, mon cours, il y a une dimension académique, mais là, son propos à elle, elle ressasse la dimension académique, mais de manière très poétique, très allusive. Puis ça rend tout ça plus accessible, mais en même temps plus beau aussi.
Puis on comprend, en fait, je t'entends décrire un peu ta relation avec ce texte-là, puis je me dis, ben, tu sais, au bout du compte, c'est vraiment ce qui a été pris, puis ce qui a été mis dans l'album aussi, littéralement, dans le fond, parce que c'est essentiellement la même ambiance que vous créez à l'intérieur du récit que toi, tu as ressenti à l'intérieur de l'essai de cette étudiante-là.
Ouais, définitivement.
Et tout ça, ben, évidemment, disponible chez Éco-Société, dans le fond, c'est cet ouvrage autour de cette lutte représentative de plusieurs luttes aussi à découvrir en fait. Donc, c'est Jean-Philippe Chénier et Joachim Bélanger. Ça s'appelle Résister et fleurir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir passé cette demi-heure avec nous.
Ben, merci, c'est très gentil.
Ah ben voilà ce qui conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir de vous retrouver. La semaine prochaine, on se retrouve en mode club de lecture. À très bientôt.